BPM, l'association de la semaine.
Bonjour à tous, bienvenue sur BPM si vous venez de nous rejoindre. C'est l'heure de votre émission, l'association de la semaine. Et cette semaine, eh bien, nous recevons l'association Les Souris Vertes, présentée par Frédéric Ducasse. Alors tout d'abord, Frédéric, bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, très bien.
Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous a déjà entendu sur notre antenne en direct du village des associations de Vernon il y a quelques semaines déjà. Avant de parler de l'association, on va s'intéresser un petit peu à vous, chose qu'on n'avait pas pu faire il y a au début du mois de septembre. Présentez-vous, qui êtes-vous pour nos auditeurs, Frédéric ?
Alors, donc moi je suis le président de l'association Les Souris Vertes, association que j'ai cofondée il y a déjà 22 ans de cela. Sinon, professionnellement, je suis consultant en formation et précédemment, par le passé, j'étais médiateur scientifique de métier et j'en ai fait ma passion en créant l'association Les Souris Vertes.
Qu'est-ce qui vous a poussé justement donc du coup à vous lancer dans l'aventure associative, j'ai envie de dire ?
Bah précisément parce que je changeais de sphère professionnelle, je passais de l'animation socioculturelle à la formation professionnelle et je souhaitais encore garder un pied dans la médiation et tout particulièrement la médiation scientifique. Et donc c'est comme ça que j'ai réuni un petit groupe au départ pour créer cette association-là en 2002 autour d'activités scientifiques dont je vous parlerai dans l'interview.
Et donc, du coup, quand vous créez l'association Les Souris Vertes, c'est votre première expérience en tant qu'association dans le milieu associatif ou il y avait déjà eu un petit passif, on va dire, au niveau de l'asso ?
Non, je suis passé déjà par pas mal d'associations d'éducation populaire, en particulier les CMEA. Mais la motivation à créer une association de A à Z, ça a été aussi ce qui a été moteur pour le groupe d'amis qu'on avait regroupé ensemble pour créer cette association. Il y avait effectivement à la fois le projet de l'activité, mais aussi le projet de l'association elle-même qui nous motivait venant du milieu associatif. On souhaitait se confronter à la création associative.
Et le fait d'avoir son petit bébé à soi aussi, j'imagine.
C'est exactement ça.
Donc du coup, Les Souris Vertes, créé donc en 2002, vous l'avez dit. Vous étiez combien du coup pour lancer l'association ?
Alors au départ, c'est un petit groupe de 6-7 personnes. Hein,
ce qui est déjà pas mal.
Tous impliqués assez... Dans l'association, dans son animation, dans la création du site web, dans la communication. Enfin voilà, il y a tout à créer hein, quand on crée une association, évidemment.
Et généralement, chacun a son rôle.
Chacun a son rôle, oui, plus ou moins. Et puis, nos études, on est tous quasiment passés par l'animation socioculturelle. Donc, on avait tous dans nos études... les compétences aussi pour pouvoir développer une association sous toutes ses facettes.
C'est vraiment le côté, du coup, apporter la science à des gens qui en auraient peut-être un peu peur, du coup, à la base.
Alors, initialement, c'est vraiment une association de médiation scientifique et technique. La particularité, c'était qu'on souhaitait vraiment s'adresser à tous, jeunes et moins jeunes. Parce que la médiation scientifique, toujours actuellement, s'adresse beaucoup aux plus jeunes, notamment en milieu scolaire. Et c'est vrai que passer l'école, c'est quand même assez moins fréquent. Donc on souhaitait d'une part développer la médiation scientifique dans un cadre hors scolaire, donc un cadre de loisirs. Et puis également, vraiment pour tous, jeunes et moins jeunes, des familles, des adultes, des étudiants par exemple. Et progressivement, ça s'est même développé de plus en plus, parce qu'on avait pas mal d'activités initialement auprès des plus jeunes. Et puis progressivement, bah, effectivement, on s'est destiné davantage aux lycéens, aux étudiants et au public adulte. Et aujourd'hui, on est quasiment, notre offre d'activité en tout cas notre offre régulière, dont je vous parlerai, est quasi exclusivement dédiée aux adultes, aux étudiants et de temps en temps aux lycéens.
Parce que c'est vrai que quand on se rappelle un peu nos cours de sciences à l'époque, la science, ça peut faire un peu peur. Là aussi, l'objectif, c'est de montrer de manière ludique tout ce que la science peut faire, tout ce qu'on peut faire en s'amusant, en fait, tout simplement.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que nous, en plus de ça, dans nos activités, on a aussi évolué. Notre activité historique et notre activité phare, qui est toujours d'actualité, c'est l'activité espace. Donc, ce que l'on entend par espace, c'est la fabrication principalement de fusées amateurs, éventuellement de ballons stratosphériques. Donc ça, c'est notre activité historique que l'on a développée depuis 20 ans. Et puis, progressivement, on a effectivement développé d'autres activités, la robotique, l'informatique.
Pour se diversifier.
Pour toucher d'autres publics aussi, l'astronomie. Donc ça, ce qui sont des activités quand même très technologiques. Et depuis maintenant 4-5 ans, on a quand même évolué aussi dans notre volonté d'avoir des activités qui soient des activités un peu plus citoyennes, dans le sens où des activités scientifiques, mais citoyennes également, ce sont des activités qui, pour nous, sont des activités qui se rapprochent du quotidien. Donc c'est comme cela que l'on a développé l'activité bricologie, donc la science du bricolage, ou depuis cette année, depuis cette année et donc notre prochaine activité qui ouvrira début 2025, les sciences du jardin. Voilà, c'est un autre biais pour aborder la démarche scientifique, pour s'intéresser à un objet scientifique ou technique, mais par des activités qui sont plus quotidiennes. Et c'est aussi une façon plus citoyenne aussi de s'intéresser, d'impliquer la science auprès d'un public néophyte.
On reviendra dans quelques instants justement et on s'intéressera aux différentes activités. Mais moi j'ai une question qui concerne le nom. Pourquoi ce nom, les souris vertes ?
Alors c'est une question qu'on nous pose assez fréquemment. Il y a une réponse sur notre site web qui se conclut par parce que c'est comme ça. L'histoire est très très longue, donc elle va être trop longue pour la raconter ici. Disons que pour faire court, c'est initialement avec le petit groupe d'amis que nous étions à l'origine de l'association. Ça part d'une private joke. Et puis quand il a fallu trouver un nom pour cette association-là, on s'est dit tiens, voilà, les souris vertes. C'était une blague au départ entre nous et c'est
quelque chose qui vous représentait aussi,
qui nous représentait alors et qui représente très bien l'association parce que je pense que on souhaitait aussi un nom qui ne soit pas trop scientifique.
Ouais.
Notre but c'est de démystifier les sciences et c'est vrai que quand on parle de souris vertes, on n'imagine pas forcément une activité une activité scientifique derrière et donc c'est aussi voilà pour montrer aussi que on peut avoir des activités très fun et très ludiques, même si derrière, il y a un fond très sérieux et scientifique.
Important de le noter. Parlons donc des activités maintenant un peu plus en profondeur, j'ai envie de dire. On va s'intéresser d'abord sur l'activité historique donc, qui concerne l'espace. Vous parliez de micro-fusées, justement, de mini-fusées même que vous faisiez. Et faites toujours. Comment est-ce que ça se passe justement ces ateliers autour de l'espace ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on y fait ?
Alors, il y a effectivement des catégories de fusées en fonction des âges, en fonction des compétences techniques aussi. Donc souvent, on aborde souvent la fusée avec la fusée à eau, par exemple, que l'on fait aussi sur des événements, par exemple. Mais après, la majorité de nos fusées sont plutôt des fusées propulsées donc avec des propulseurs à poudre. Donc depuis la micro-fusée, qui sont des fusées relativement légères, qui font 50-100 grammes, faites principalement avec des matériaux légers, carton, balsa, et qui vont atteindre des altitudes de une centaine de mètres maximum. Mais qui permettent d'étudier, par exemple, la stabilité du vol, voilà, qui permettent vraiment de s'initier à l'activité spatiale autour des fusées, ne serait-ce que pour rendre une fusée stable, par exemple.
Ouais.
Voilà, ça, c'est la micro-fusée. Ensuite, on a une autre catégorie qui est donc la mini-fusée, qui, elle, va avoir plutôt un intérêt, donc bien sûr d'être stable, mais qui va avoir un intérêt de, par exemple, d'embarquer un système de récupération. Parce que les micro-fusées, effectivement, retombent au sol sous parachute, mais c'est le propulseur qui éjecte automatiquement un parachute à la fin de sa propulsion. Les mini-fusées, l'intérêt, en tout cas chez nous, ça va être éventuellement de concevoir un système électromécanique pour éjecter un parachute ou tout système d'éjection, parce que c'est souvent un parachute, mais chez nous, on a fait des fusées qui éjectaient un parapluie ou qui ouvraient des ailes de libellule, par exemple. Voilà pour le côté fun de cette activité. Donc ça, les mini-fusées, c'est des fusées qui vont faire à peu près un kilo, qui montent à une altitude de 300, 500, 600 mètres pour les plus légères. Et qui donc vont effectivement embarquer des systèmes électromécaniques, éventuellement quelques expériences aussi. Ça peut être des expériences donc électroniques de calcul de la vitesse, de l'accélération, voilà, des centrales inertielles, des choses comme ça. Donc là, on va effectivement avoir tout un panel de compétences qui ne sont pas que mécaniques, mais de conception 3D par exemple, avec effectivement de l'impression 3D, de l'électronique bien sûr, de la programmation, parce que on embarque souvent des cartes électroniques qu'il faut programmer. Donc là, avec la mini-fusée, on aborde une activité qui, du coup, est multi-compétences et qui est assez intéressante pour cela.
Il y a plein de volets de scientifiques qu'on aborde. Et du coup,
Exactement. Puis il y a un dernier échelon que l'on fait assez peu chez nous, parce que pour cela, il faut lancer ces fusées-là une fois par an dans le sud de la France. Et que c'est des fusées qu'on fait assez rarement, qui sont les fusées expérimentales, donc là, qui sont des fusées de plusieurs kilos, qui montent à des altitudes de 1500 mètres à peu près, et qui, elles, par contre, embarquent obligatoirement des expériences, un système de récupération, mais voilà, de manière beaucoup plus conséquente, et qui sont, la plupart du temps, des projets souvent d'écoles d'ingénieurs, par exemple, ou d'étudiants dans le supérieur. Nous, on essaye de le faire, effectivement. On l'a fait par le passé en club indépendant. Mais voilà, sur Vernon, en tout cas, sur notre club espace, à Vernon, pour l'instant, on se limite à micro-fusée, mini-fusée principalement, ce qui nous permet déjà de faire des très beaux projets.
D'ailleurs, toutes ces activités, ça vous en faites régulièrement au niveau de ces mini-fusées, micro-fusées ?
Tout à fait. C'est la seule activité régulière que l'on mène. Je précise que toutes les personnes de l'association sont bénévoles depuis le début de la création de l'association. Toutes les personnes impliquées sont bénévoles. Par contre, on a réussi effectivement à mener quand même une activité régulière. Donc là, l'activité espace, c'est la seule qui vraiment se fait toutes les semaines au CSADN, donc sur le plateau de l'espace. C'est le vendredi midi, notamment parce qu'il y a quelques salariés d'Ariane Group et du plateau de l'espace qui nous rejoignent et donc qui viennent le vendredi midi, donc de midi et demi à 14h. Et un créneau le soir, le vendredi soir, de 17h à 19h.
C'est vrai que c'est un bel endroit pour le coup, pour avoir des activités autour de l'espace, que ce soit Vernon, mais le plateau de l'espace, là... On est vraiment dans le thème tout de suite, quoi.
Tout à fait. C'est pas par hasard, effectivement, qu'on a souhaité créer ce club espace, parce qu'il n'y avait pas forcément d'activité de loisirs autour de l'espace. Il y a des activités, il y a de l'astronomie, par exemple, des choses comme ça, mais c'est vrai que la création pure de fusées se faisait pas. Donc, on s'est dit qu'il y avait effectivement un intérêt potentiel et on a rapidement vu que c'était le cas.
D'autres activités, notamment autour de l'astronomie aussi, vous disiez ?
Oui, alors l'astronomie, on en fait, mais pas de manière régulière. D'abord parce qu'au CSADN, il y a un magnifique club espace qui est la porte juste à côté de nous, avec qui on travaille régulièrement, on fait des événements ensemble aussi. Et donc du coup, chacun son domaine. On n'avait pas un intérêt à faire de l'astronomie de manière régulière. On a des instruments d'observation, mais nous, on va le faire plutôt... sous forme événementielle. Par exemple, une à deux fois par trimestre. Et on le fait souvent...
Quand le temps le permet, déjà.
Alors, quand le temps le permet, bien sûr. On le fait souvent lors d'événements que l'on crée nous-mêmes ou que l'on crée en partenariat. Ça a pu être le cas, par exemple, sur des manifestations aux Andelys l'été ces dernières années. Et puis, on le fait également de temps en temps à la Brasserie de l'Apocalypse à Bois-Jérôme. Et là, précisément, le mois prochain, le 4 octobre, on aura donc une soirée Astrocalypse qui aura pour thème Space Invaders, puisque nos soirées astro ont toujours un fil conducteur. Et là, ce sera le lien entre l'astronomie et le jeu vidéo.
ça sera un beau lien. Donc, le 4 octobre, du côté de la Brasserie de l'Apocalypse. Autres activités que vous faites, là encore une fois, de manière un peu plus événementielle, le Bricolabus, vous en avez parlé tout à l'heure, tout ce travail autour de la bricologie. Expliquez-nous justement le concept du Bricolabus.
Alors, le Bricolabus, c'est la version ambulante, itinérante de notre activité bricologie. On n'a pas une activité bricologie régulière, en tout cas pas pour l'instant. Le Bricolabus, le but, c'était vraiment d'implanter à la manière d'un bibliobus, on connaît bien le principe du bibliobus, et c'était d'implanter de la même manière un espace principalement de réparation dans des quartiers, donc au pied des immeubles, par exemple. Ça a été plusieurs fois le cas au pied de la résidence des Tourelles.
Au pied des Tourelles, oui.
Voilà, exactement. Et le but, c'est effectivement de sensibiliser le tout public, puisque c'est une manifestation en accès libre, à la réparation des objets du quotidien et donc à l'obsolescence programmée. Et dans une approche scientifique, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, on va utiliser le prétexte de le grille-pain, la cafetière, l'ordinateur, le taille-haie ou le vélo, qui tombe en panne, qui fonctionne pas bien, pour ouvrir les entrailles de la bête et diagnostiquer ensemble avec les personnes et d'expliquer de quoi sont faits leurs objets du quotidien, en même temps qu'on le répare avec eux, quand c'est possible évidemment. On n'est pas en mesure de toujours tout réparer. Mais en tout cas... Le but, c'est avant toute chose d'avoir un intérêt à ouvrir nos objets du quotidien et à se rendre compte que des fois, la réparation est extrêmement simple. Hein.
Oui, des fois, c'est juste un petit truc.
Très souvent, on fait des fois une petite pièce en impression 3D simplement pour remplacer une pièce d'un appareil qui ne fonctionne plus, un bouton cassé, des choses comme ça. Et puis les personnes repartent avec leur appareil en état de marche et surtout avec un intérêt à éventuellement reproduire la même démarche par la suite, éventuellement par eux-mêmes ou en se rapprochant d'un répare-café. Il y en a un à la manufacture, par exemple. Donc, on est aussi en lien avec d'autres partenaires, d'autres structures. Le but, c'est effectivement d'amener... tout un chacun à s'intéresser à la réparation potentielle des objets du quotidien.
À bien comprendre, c'est vraiment tout le volet vulgarisation au final.
Donc le Bricolabus, c'est ça, c'est un espace de réparation avec un atelier électronique, mécanique, impression 3D, couture, qui s'implante pendant généralement 2-3 jours. Et puis à côté de ça, pour faire aussi venir le public, on a des animations. Des animations qui vont être des créneaux. Et donc là, que l'on mène avec des partenaires, des associations locales ou des partenaires locaux. Ça a pu être par le passé l'association Zéro Dèche, la Manufacture des Capucins, le CETA, vous voyez. Des associations qui viennent animer des activités qui ont un lien avec l'obsolescence programmée ou avec la réparation, avec tout ce qui peut être lié à... finalement la durée de vie des objets.
Et du coup, il y aura bientôt un événement autour du Bricolabus.
Tout à fait. Le 12 octobre, la fête des possibles qui est organisée à la Manufacture des Capucins, pareil, avec plein de partenaires. Et donc, nous y serons présents avec le Bricolabus. Donc, on attend potentiellement des objets de toutes sortes à réparer.
Et puis, dans quelques semaines, quelques mois, il y aura une nouvelle activité. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, autour de la science du jardin, des sciences du jardin. C'est vrai qu'on retrouve la science dans le jardin. On n'y pense pas forcément. Mais...
Exactement, comme on pourrait la retrouver dans la cuisine. Par le passé, on a pu faire la science de la cuisine, cuisine moléculaire ou autre. La science du jardin, en fait, ça part de la volonté d'ouvrir un jardin que l'on a acquis sur les Andelys, qui est donc en centre-ville des Andelys, un jardin potager, pas de très grande taille, mais qui permet malgré tout, qui permettra un espace de rencontre autour des questionnements liés au jardin, et toujours dans une problématique scientifique et technique. Donc ça va être par exemple de s'interroger sur des questions comme le compost, par exemple, ou bien des questions plus techniques, par exemple la fabrication d'un système d'arrosage automatique en fonction de l'humidité du sol, par exemple, ou bien de composteurs expérimentaux, vous voyez, des activités qui vont mêler le jardin, des activités techniques, puisque là, on va retrouver un peu d'équipement électronique, des cartes électroniques éventuellement à programmer. Mais pas seulement, ça va être aussi de s'intéresser à la chimie du sol, par exemple. Voilà, tout ce qui peut être prétexte à s'interroger scientifiquement sur la vie d'un jardin.
Donc ça, à retrouver à partir du printemps 2025.
Exactement, et ce sera aux Andelys.
Aux Andelys. En quelques mots aussi, parce qu'on s'approche déjà de la fin de l'émission, en quelques mots, il y a aussi des petits séjours familiaux qui sont faits de temps en temps.
Voilà, alors c'est vrai que, à part l'activité régulière qui est le Club Espace, c'est vrai que, comme je le disais, on a souvent des activités plutôt événementielles. Et les séjours familiaux, ce sont des séjours qui, là, pour le coup, sont vraiment, comme son nom l'indique, hein, des séjours dédiés aux petits et aux grands. Donc, des familles peuvent se retrouver. Alors, en général, on essaie de faire ça à peu près deux heures de route à peu près de Vernon, dans un gîte, une structure qui peut nous accueillir, qui peut accueillir 15, 20, 25 personnes éventuellement, autour d'une ou deux thématiques scientifiques. Mais alors là, ça peut être très très varié, et le but, c'est que justement les thématiques scientifiques soient vraiment choisies pour qu'elles puissent s'adresser autant aux enfants qu'aux grands. Donc, par le passé, par exemple, on a pu faire des séjours ornithologie avec l'observation de la migration des grues au lac du Der. Donc là, c'était en Champagne. On a pu faire également des week-ends autour de l'impression 3D, de l'astronomie. On a fait des week-ends d'astro. Le dernier en date, c'était sur le Gravitrax, les circuits de billes. Et donc, on a conçu des pièces en impression 3D. Donc, on a conçu des pièces pour justement les circuits de billes Gravitrax. Voilà, c'est comme ça que l'on imagine un peu des activités, des moments de rencontre conviviaux qui permettent de réunir tout le monde autour d'un thème scientifique. Et le prochain séjour scientifique aura lieu sur le week-end du 11 novembre. En général, on essaye de faire ça sur des week-ends prolongés. Et ça aura pour thème le Raspberry. Donc le Raspberry, c'est une petite carte électronique programmable qui permet de faire plein de choses. Et notamment, on proposera deux types de projets avec ce Raspberry. La fabrication de consoles rétro gaming. Et également la fabrication de boîtes à histoire pour les plus jeunes.
Et puis toutes les informations besoin sur l'association, vous retrouvez facilement sur Internet, Les Souris Vertes. Page Facebook, site internet, assez facile à trouver.
Tout à fait, lessourisvertes.org, notre adresse mail, contact@lessourisvertes.org.
Merci beaucoup Frédéric.
Merci à vous.
Merci donc d'être venu nous parler de l'association Les Souris Vertes. C'est tout pour votre émission, l'association de la semaine. Passez une excellente journée à l'écoute des programmes de BPM.